Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Attention au départ. Et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce jeudi 28 avril avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence ce soir avec un chômage au plus bas depuis 10 ans.
Pour la première fois depuis 2012, la France est repassée sous la barre des 3 millions de chômeurs en métropole, moins 15% sur un an. Et la baisse est encore plus forte chez les jeunes, moins 25%, et pas seulement due aux jeunes en apprentissage. Explication dans un instant. Le gouvernement Castex réunit au grand complet aujourd'hui à l'Elysée, un dernier conseil des ministres qui en fait n'en était pas un. C'est en tout cas ce que dit l'exécutif qui semble vouloir gagner du temps avant la nomination du prochain Premier ministre. Décryptage à suivre. À suivre aussi le secrétaire général de l'ONU sur le site de Boutcha en Ukraine. Les patrons de bars et de boîtes de nuit préoccupés par une épidémie de piqûres. Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les exocomètes, ce sera en fin de journal.
À 18h15, un jour dans le monde en Turquie ce soir qui sera indispensable pour tenter les négociations entre les Russes et les Ukrainiens, qui se veut médiatrice et faiseuse de paix, tout en accentuant sa pression terrible sur les opposants. L'enfermement à vie d'Osman Kavala l'a encore prouvé. Le grand écart turc, on y vient avec notre première invitée. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Vous en parliez, à force de vouloir cocher tellement de cases indispensables, on se demande s'il existe quelque part ce Premier ministre que cherche Emmanuel Macron. Apparemment, c'est compliqué puisque le dernier Conseil des ministres n'était finalement pas le dernier. Cherche Premier ministre désespérément. On essaiera de faire son portrait robot ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc une baisse surprenante au vu du contexte international.
Oui, contrairement à beaucoup d'autres pays, la France voit encore ses chiffres du chômage reculer au premier trimestre de cette année par rapport à l'an dernier. Moins 5% de demandeurs d'emploi en catégorie A, ceux qui n'ont pas du tout d'activité, c'est-à-dire 170 000 inscrits de moins à Pôle emploi. Sur un an, on atteint moins 15,7% dans cette catégorie. Et la décrue est encore plus importante chez les jeunes de moins de 25 ans. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir Sébastien.
Sur un an, le chômage des jeunes aura circulé de plus de 25%. Une partie d'entre eux est en apprentissage, mais pas seulement.
Hein. Oui, car les moins de 25 ans seraient devenus une variable d'ajustement du marché du travail en quelque sorte, alors que les entreprises peinent à recruter, on le sait, et que le quoi qu'il en coûte a maintenu une grande partie de l'emploi salarié en France. Le taux d'emploi des moins de 25 ans atteint des records avec l'apprentissage, il est vrai, mais aussi avec des emplois peu qualifiés que les employeurs peinent à pourvoir sur le marché du travail. Les temps partiels, contrats de quelques heures, augmentent de 4% sur une année. La catégorie A pour les moins de 25 ans, donc sans aucune activité, plonge de 25% sur un an. Des jeunes peu qualifiés qui accèdent à des emplois sur quelques heures ou acceptent des CDI qui n'attirent plus les salariés, faute d'être convenablement rémunérés. Du côté de l'apprentissage, la logique est inversée. Ce sont les plus qualifiés, les Bac plus 2, les Bac plus 5 qui viennent grossir les rangs des apprentis. Plus parmi les 700 000 contrats d'apprentissage signés l'an dernier, 60% viennent de l'enseignement supérieur.
Laurent Kramer du service économie de France Inter. On le disait, ces chiffres sont une surprise compte tenu de l'environnement mondial. Autrement dit, l'invasion russe, les problèmes d'approvisionnement n'ont pas encore d'effet sur le marché du travail français, mais ça pourrait ne pas durer. On aura demain les chiffres de la croissance française qui pourraient être affectés par celle des États-Unis. Le PIB américain est en recul de 1,4% au premier trimestre. En attendant, le gouvernement français, lui, n'a pas tardé à se féliciter de ces chiffres. Cap sur le plein emploi, a réagi sur Twitter la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui, comme tous ses collègues du gouvernement, était conviée ce matin à l'Élysée à un pot de départ, celui de Jean Castex. Tout semblait indiquer qu'il s'agissait là du dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Mais surprise, Maxence Lambrecht, bonsoir.
Bonsoir.
Ce ne serait finalement pas le dernier conseil, on a du mal à suivre.
On a du mal à suivre et les ministres aussi, c'est rassurant. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'Emmanuel Macron leur dise tout à l'heure qu'il pourrait y avoir un nouveau conseil la semaine prochaine avec ce même gouvernement. Le porte-parole Gabriel Attal a aussitôt répété la nouvelle.
Je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du dernier conseil des ministres, ni évidemment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
Le gouvernement Castex passera le week-end pour gérer notamment les manifestations du 1er mai, dimanche. Et lundi, certains agendas sont remplis.
Lundi prochain se tiendra un conseil des ministres de l'énergie européen extraordinaire, auquel participera évidemment Barbara Pompili, qui est la ministre de l'énergie.
Emmanuel Macron n'aime pas se faire imposer de calendrier, rappelle un ministre. Annoncer que ce n'est pas fini, ça lui donne un peu d'air, cela atténue la pression médiatique. On a le temps avant les législatives, ajoute un communicant du pouvoir. Ce midi, cela ressemblait tout de même à un pot de départ sur la terrasse de l'Élysée. Jusqu'à 15h, les ministres allaient de table en table, discutant plus des législatives que de leur avenir, très incertain au gouvernement. La seule qui est arrivée avant tous les autres et avant la presse à l'Élysée, c'est Elisabeth Borne, dont le nom continue de circuler pour Matignon. Imaginez-vous si le résultat de dimanche avait été tout autre, dans quel état d'esprit serions-nous, a lancé en substance Emmanuel Macron, qui convoquera donc peut-être mercredi prochain un nouveau conseil.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà. Et Gabriel Attal en rigole, on ne sait pas s'il sera toujours porte-parole.
Maxence Lambrecq du service politique d'Inter. À gauche, on est à la limite du psychodrame. Les négociations entre la France insoumise et les autres partis sont plus chaotiques que prévu. Le PS se déchire après les premiers échanges hier plutôt positifs entre les insoumis et les socialistes. François Hollande met en garde, lui, contre un risque de disparition, dit-il, du parti. Au PC, ça coince aussi avec Fabien Roussel qui demande maintenant des négociations multipartites. Et avec les Verts, pas d'accord sur le nombre de circonscriptions. Seul le parti Génération, fondé par Benoît Hamon, a pu conclure un accord avec LFI. À l'extrême droite aussi, on pense aux législatives. Lancement de la campagne du RN ce soir sur les terres lepénistes de Fréjus. Jordan Bardella, le président du parti, confirme que Marine Le Pen sera candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, dans le camp Zemmour. Premier départ des cadres de Reconquête. Jean Messia, l'ex-porte-parole de campagne, a décidé de quitter le parti pour reprendre ses activités médiatiques, notamment sur le plateau de CNews.
Le patron de l'ONU au chevet de l'Ukraine.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est en visite aujourd'hui à Kiev, sa première depuis le début de l'offensive russe. Le patron des Nations Unies qui rencontre en ce moment même le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais avant cela, il s'était d'abord rendu ce matin sur le site de Boutcha et il a appelé Moscou à coopérer avec la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. Jean-Sébastien Soldaini.
Oui, Boutcha où Antonio Guterres s'est longuement arrêté devant une parcelle de terre retournée. C'est l'une des fosses communes où ont été enterrées les victimes des massacres commis dans cette ville. 117 civils, dont 30 femmes et 2 enfants. Un moment de silence pour le secrétaire général de l'ONU. Entouré de quelques soldats, il écoute patiemment le prêtre lui décrire ce qu'ont enduré ces personnes avant de livrer un bref commentaire.
Quand nous parlons de crimes de guerre, nous ne pouvons pas oublier que le pire des crimes, c'est la guerre en elle-même. Quelle qu'en soit la raison, la guerre ne peut pas être acceptable.
Il plaide alors pour la poursuite des enquêtes, pour que les responsabilités soient établies. Avant d'en appeler à la Russie, elle doit accepter, dit-il, de coopérer avec la Cour pénale internationale. Peu de chances pour que ce message soit entendu, d'autant que, devant tout ce va-et-vient de dirigeants occidentaux, le Kremlin se raidit. C'est finalement sur les discussions autour de l'évacuation des civils que la venue d'Antonio Guterres pourrait faire avancer les choses, notamment à Mariupol. Mardi, il y avait un accord de principe entre le secrétaire général de l'ONU et le président russe pour qu'une opération soit menée. Eh bien, un émissaire des Nations Unies est en route pour la ville de Zaporojia pour tenter de se coordonner avec le comité international de la Croix-Rouge.
Jean-Sébastien Soldaini, la justice ukrainienne dit par ailleurs qu'elle a mis en examen dans cette enquête sur Boutcha 10 soldats russes issus de la 64e brigade de fusiliers motorisés russes. 8000 cas de crimes de guerre ont été identifiés dans tout le pays. Ajoutons enfin que les États-Unis s'apprêtent encore à renforcer leur aide militaire. Le président Joe Biden va demander au Congrès de débloquer 33 milliards de dollars supplémentaires, dont 20 milliards en aide militaire. C'est un documentaire choc qui s'annonce accablant pour l'ex-présentateur vedette de TF1. France 2 diffuse ce soir à 23h, PPDA, la chute d'un intouchable. Une enquête sur le système Poivre d'Arvor, mise en cause par 25 femmes pour agression sexuelle et viol. PPDA qui a porté plainte hier pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes, l'accusant de violation sexuelle. De violence sexuelle. Bonsoir Nolwenn Lejeune.
Bonsoir.
Ce n'est pas la première fois qu'un mis en cause utilise cet article de loi, une procédure bâillon, dénonce les victimes.
Des victimes qui obtiennent pourtant souvent gain de cause en justice. Ainsi, devant la cour d'appel de Paris, le caractère diffamatoire des tweets de Sandra Müller, initiatrice du mot-clé Balance ton porc contre l'ancien patron d'Equidia, a certes été reconnu, mais la cour a débouté ce dernier de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, estimant que les tweets en question avaient été publiés dans le cadre d'un débat d'intérêt général en l'occurrence la libération de la parole avec le mouvement MeToo. Dans une autre affaire, celle de l'écrivaine Ariane Fornia qui avait accusé l'ancien ministre Pierre Joxe d'agression sexuelle, la justice a reconnu sa bonne foi et elle a estimé que le prononcé d'une condamnation aurait porté une atteinte disproportionnée, voire dissuasive, à la liberté d'expression. Mais la jurisprudence n'est pas uniforme et récemment, la fille de Richard Berry, Colline, a été condamnée pour diffamation contre son ex-belle-mère Jean Monson. Et ces plaintes peuvent aussi déclencher des réactions assez inattendues chez les accusatrices. L'une des 16 femmes assignées par Patrick Poivre d'Arvor s'en réjouit finalement. Bonne nouvelle, écrit Emmanuel Dancourt sur Twitter. Nous allons avoir un procès les yeux dans les yeux, Patrick, nous qui en étions privés pour prescription.
Nolwenn Lejeune, c'est la suite logique de l'enquête administrative contre Orpea. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête judiciaire pour maltraitance et détournement de fonds publics. Des piqûres qui se répandent comme une traînée de poudre. Au moins 88 plaintes déposées désormais un peu partout en France pour des suspicions de piqûres à Rennes, Nantes, Toulouse, Grenoble et dernièrement lors d'un festival de musique à Lanester dans le Morbihan. 25 festivaliers ont porté plainte contre X. Les enquêtes se multiplient donc, mais le mystère demeure. Aucune trace de GHB détectée, la drogue du violeur, ni aucune autre substance nocive, aucune grave séquelle non plus, et enfin aucune information sur les motivations des suspects. Un phénomène énigmatique qui commence sérieusement à inquiéter les clients des discothèques, des bars et des salles de concert. Grosse inquiétude aussi chez les patrons de ces établissements de nuit. Thierry Fontaine est le président de la branche nuit de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie.
C'est un acte abject, malsain, puisqu'on fait peur à un groupe de gens, on cible des jeunes. Il y a forcément l'économie derrière qui est impactée, hein, l'économie de secteur. Je rappelle quand même que le secteur de la nuit a été durement impacté pendant 18 mois pendant la crise Covid. On a eu le GHB qui est arrivé, on a trouvé des parades pour le GHB qui était inséré dans les verres des victimes, par des capuchons, par de la prévention, des campagnes d'affichage. Mais là, comment se prémunir, c'est difficile. C'est difficile et en effet, cette inquiétude commence à être croissante. Il y a une psychose qui s'installe, c'est une certitude, aussi bien chez les professionnels, mais aussi chez les parents des victimes et les victimes elles-mêmes.
Voilà Thierry Fontaine avec Algéra Mohamed.
Et on termine, Sébastien, à 63 années-lumière de la Terre.
Oui, c'est la très légère distance qui nous sépare d'une étoile appelée Beta Pictoris, une grosse étoile plus grosse que le Soleil, dont l'observation pourrait nous en apprendre beaucoup sur l'origine de l'univers et notamment sur la formation des planètes. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Spécialiste de l'univers devant l'éternel, une équipe de chercheurs français vient de découvrir la présence autour de cette étoile, non pas d'exoplanètes, mais d'exocomètes. 30 exocomètes exactement, des objets moins populaires, Sophie, mais très instructifs.
Oui, ces 30 comètes ont été détectées grâce au télescope TESS de la NASA. 156 jours d'observation consécutive ont permis de détecter la très légère baisse de luminosité de l'étoile quand les comètes passaient devant. L'intérêt de débusquer une telle quantité, c'est que cela permet de faire des statistiques, explique Alain Lecavalier des Étangs, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris est responsable de cette étude publiée dans Scientific Reports.
30 objets, ça permet de faire l'étude de combien il y a de petites par rapport à combien il y a de grandes. Et c'est là le résultat qui est tout à fait extraordinaire, c'est que c'est exactement la même distribution de taille que les comètes du système solaire.
En effet, pour ces exocomètes qui font entre 3 et 14 km de diamètre, eh bien, il y a 10 fois plus de petites exocomètes que de grosses. Cette proportion permet de reconstituer le scénario des collisions qui a présidé à la naissance de ces petits corps glacés, car les exocomètes, il faut le savoir, se sont formés en même temps que les planètes, précise Alain Lecavalier des Étangs. Ce sont des déchets du processus d'agglomération, si on veut.
Comme quand on fabrique une cathédrale, on utilise l'essentiel des briques qu'on a sous la main. Il y a un peu de résidus. Et les comètes qu'on observe aujourd'hui dans le système solaire, ou aujourd'hui autour de Beta Pictoris, finalement, ce sont les tas de cailloux qui n'ont pas été utilisés pour former les planètes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, c'est un traceur de ce qui s'est passé au moment de la formation des planètes.
Et c'est pour les astronomes d'autant plus intéressant que le système Beta Pictoris est très jeune, 20 millions d'années. L'étape suivante consistera à utiliser d'autres télescopes pour aller plus loin et analyser la composition de ces exocomètes qu'on soupçonne d'avoir joué un rôle dans l'apport de l'eau sur Terre.
Voilà les exocomètes de Sophie Becherel. Si vous voulez en savoir plus, c'est sûr à retrouver sur franceinter.fr.
Voilà, grâce à Sophie, spécialiste de l'univers. Donc, et c'est vrai que c'est long, surtout
devant
vers la
l'éternel.
Fin. Merci beaucoup Sébastien Legénie. À tout de suite, bien sûr, dans Un jour dans le monde. On va parler très sérieusement de lancer d'ananas et de Donald Trump dans un petit instant avec vous. Ce soir, avec le grand invité d'Un jour dans le monde, là, grand invité d'ailleurs, on va parler Turquie, qui entend se rendre indispensable entre la Russie et l'Ukraine, tout en mettant une très très grosse pression sur ses opposants. Et puis à 19h20, c'est le téléphone sonne, allez-y, le standard est ouvert. On va tâcher ensemble de faire le portrait robot de ce Premier ministre que cherche un Emmanuel Macron qui croit au dépassement, fermez les guillemets. Pour l'instant, pas de fumée blanche, ni de clé d'ailleurs sur cette femme ou sur cet homme qui doit cocher les cases questions sociales, questions environnementales, questions productives. On jette en tout cas un œil sur le ciel avant tout cela.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Et Jean-Pierre Hameau de Météo France. Bonsoir Jean-Pierre. Alerte rouge demain matin, arrivée d'une perturbation par l'ouest.
Oui Fabienne, nous allons retrouver cette perturbation en matinée des Pays de la Loire à Poitou-Charentes et jusque vers les Hauts-de-France en passant par la région parisienne. Inutile de vous encombrer d'un parapluie, hein, cette perturbation sera essentiellement nuageuse. Et puis à l'avant de cette perturbation, votre matinée sera ensoleillée. Dans le sud-ouest, le ciel restera majoritairement nuageux. L'après-midi, notre perturbation va progresser vers la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Lorraine. De faibles ondées se produiront par endroits. Le soleil résistera du sud-Alsace à la région Rhône-Alpes en passant par la Franche-Comté, mais aussi du Languedoc-Roussillon à la région PACA, sans oublier la Corse. Et partout ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus. Les températures maximales resteront fraîches près de la Manche, avec des maximales comprises entre 14 et 18 degrés. Et puis prévoyez 19 à 25 ailleurs, avec 22 à Paris et 25 à Nîmes.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci beaucoup Jean-Pierre. À tout à l'heure, après 19h.